Chapitre 5. Dans leur chambre, à côté d'un beau portrait de Fanny par Jam Tissot, une épave des anciennes splendeurs de la fille, il y avait un paysage du midi, tout noir et blanc, grossièrement rendu sous le soleil par un photographe de campagne. Une côte rocheuse escaladée de vignes, étayée de murs teints de pierre, puis en haut, derrière des fils de cyprès contre le vent du nord, et s'accotant à un petit bois de pins et de myrtes au clair reflet, la grande maison blanche, moitié ferme et moitié château, large perron, toiture italienne, portes écussonnées, que continuaient les murailles rousses du mât provençal, les perchoirs pour les pans, la crèche aux troupeaux, la baignoire des hangars ouverts sur le luisant des charrues et des herses. La ruine d'anciens remparts, une tour énorme, déchiquetée sur un ciel sans nuages, dominait le tout, avec quelques toits et le clocher roman de Châteauneuf-des-Papes, où les Gossins d'Armandie avaient habité de tout temps. Castelet, clos et domaine riches de ces vignobles fameux comme ceux de la Nerthe et de l'Ermitage, se transmettaient de père en fils, indivis entre tous les enfants, mais toujours le cadet faisait valoir, par cette tradition familiale, d'envoyer l'aîné dans les consulats. Malheureusement, la nature contrecarre souvent ses projets, et s'il y eut jamais un être incapable de gérer un domaine, de gérer n'importe quoi, c'était bien Césaire Gossin, à qui incombait à 24 ans cette lourde responsabilité. Libertin, coureur de tripots et de guillenoux villageois, Césaire, ou plutôt le fainéant, le vaurien, le mauvais drôle, pour lui garder son surnom de jeunesse, accentuait ce type contradictoire qui apparaît de loin en loin dans les familles les plus austères, dont il est comme la soupape d'échappement. En quelques années d'incurie, de dilapidations imbéciles, de bouillottes désastreuses au cercle d'Avignon et d'Orange, le clos fut hypothéqué, les caves de réserve mises à sec, les récoltes à venir vendues d'avance. Puis un jour, à la veille d'une saisie définitive, le fainéant imitait la signature de son frère, fit 3 traites payables au consulat de Shanghai, persuadé qu'avant l'échéance, il trouverait l'argent pour les retirer. Mais elles arrivaient régulièrement à l'aîné avec une lettre éperdue, avouant la ruine et les faux. Le consul accourut à Châteauneuf, remédia à cette situation désespérée à l'aide de ses économies et de la dot de sa femme, et voyant l'incapacité du fainéant, il renonça à la carrière qui s'ouvrait pourtant brillante devant lui, et se fit simplement vigneron. Un vrai Gossin, celui-là, traditionnel jusqu'à la manie, violent et calme, à la façon des volcans éteints qui gardent des menaces et des réserves d'éruption, laborieux avec cela et très entendu à la culture. Grâce à lui, Castelet prospéra, s'agrandit de toutes les terres jusqu'au Rhône, et comme les chances humaines vont toujours par compagnie, le petit Jean fit son apparition sous les myrtes du domaine. Pendant ce temps, le fainéant errait par la maison, anéanti sous le poids de sa faute, osant à peine lever les yeux vers son frère dont le méprisant silence l'accablait. Il ne respirait qu'au champ, à la chasse, à la pêche, fatiguant son chagrin d'inepte besogne, ramassant des escargots, se taillant des cannes superbes de myrte ou de roseau, et dégelant tout seul dehors d'une brochette de bec fin qu'il cuisait sur un feu de souche d'olivier au milieu de la garrigue. Le soir, rentré pour dîner à la table fraternelle, il ne prononçait pas un mot, malgré l'indulgent sourire de sa belle-sœur, pitoyable au pauvre être, et le fournissant d'argent de poche en cachette de son mari, qui tenait rigueur au fainéant, moins pour ses sottises passées que pour toutes celles à commettre. Et en effet, la grande incartade réparée, l'orgueil de Gossin l'aîné fut mis à une nouvelle épreuve. Trois fois par semaine venait en journée de couture à Castellet une jolie fille de pêcheur, d'Yvonne à Brieux, née dans l'Oseraie au bord du Rhône, vraie plante fluviale à la tige ondulante et longue. Sous sa catalane à trois pièces en serrant sa petite tête et dont les brides rejetées laissaient admirer la tache du cou, légèrement bistrée comme le visage, jusqu'au névé délicat de la gorge et des épaules, elle faisait songer à quelques donnes des anciennes cours d'amour, jadis tenues tout autour de Châteauneuf, à Courtezon, à Vaqueras, dans ces vieux donjons dont les ruines s'effritent par les collines. Ce souvenir historique n'était pour rien dans l'amour de Césaire, âme simple, dénuée d'idéal et de lecture. Mais de petite taille, il aimait les femmes grandes et fut pris dès le premier jour. Il s'y entendait, le fainéant, à ses aventures villageoises. Une contredanse au bal le dimanche, un cadeau de gibier, puis à la première rencontre en plein champ, la vive attaque à la renverse sur la lavande ou le paillis. Il se trouva que Diva ne dansait pas, qu'elle rapporta le gibier à la cuisine, et que, solide comme un de ces peupliers de rives blancs et flexibles, elle envoya le séducteur rouler à 10 pas. Depuis, elle se tint à distance, avec la pointe des ciseaux pendue à sa ceinture par un clavier d'acier, le rendit fou d'amour, si bien qu'il parla d'épouser et se confia à sa belle-sœur. Celle-ci, connaissant Yvonne à Brieux depuis l'enfance, la sachant sérieuse et délicate, trouvait dans le fond de son cœur que cette mésalliance serait peut-être le salut du fainéant. Mais la fierté du consul se révoltait à l'idée d'un gossin d'Armandie épousant une paysanne. « Oh, si Césaire fait cela, je ne le revois plus !» Et il tint parole. Césaire, marié, quitta Castellet, alla vivre au bord du Rhône, chez les parents de sa femme, d'une petite rente qui lui servait son frère et qu'apportait tous les mois l'indulgente belle-sœur. Le petit Jean accompagnait sa mère dans ses visites, ravi de la cabane des Abrieux, sorte de rotonde enfumée, secouée par la tramontane ou le mistral et que soutenait une poutre unique et verticale comme un mât. La porte ouverte encadrait le petit môle où séchaient les filets, où luisait et frétillait l'argent vif et nacré des écailles, et au bas, deux ou trois grosses barques houlant et criant sur leurs amarres, et le grand fleuve joyeux, large, lumineux, tout rebroussé par le vent contre ces îles en touffe d'un vert pâle. Et tout petit, Jean prenait là son goût des lointains voyages et de la mer qu'il n'avait pas encore vue. Cet exil de l'oncle Césaire dura 2 ou 3 ans et n'aurait jamais fini peut-être sans un événement familial, la naissance des deux petites Bessonnes, Marthe et Marie. La mère tomba malade à la suite de cette double couche et Césaire et sa femme eurent la permission de venir la voir. La réconciliation des deux frères suivie, irraisonnée, instinctive, par la toute-puissance du même sang. Le ménage habita Castellet, et comme une incurable anémie, compliquée bientôt de goût rhumatismal, immobilisait la pauvre mère, Divonne se trouva chargée de mener la maison, de surveiller la nourriture des petites, le personnel nombreux d'aller voir Jean 2 fois la semaine au lycée d'Avignon, sans compter que le soin de sa malade la réclamait à toute heure. Femme d'ordre et de tête, elle suppléait à l'instruction qui lui manquait par son intelligence, son âpreté paysanne, les lambeaux d'études restés dans la cervelle du fainéant dompté et discipliné. Le consul se reposait sur elle de toute la dépense de la maison, très lourde avec ses charges accrues et des revenus diminuant d'année en année, rongée au pied des vignes par le phylloxéra. Toute la plaine était atteinte, mais le clos résistait encore, et c'était la préoccupation du consul, sauver le clos à force de recherche et d'expérience. Cette divonne à Brieux, qui restait fidèle à ses coiffes, à son clavier d'artisane, et se tenait si modestement à sa place d'intendante, de dame de compagnie, garda la maison de la gêne en ces années de crise, la malade toujours entourée des mêmes soins coûteux, les petites élevées près de leur mère en demoiselles, la pension de Jean régulièrement payée, d'abord au lycée, puis à Aix, où il faisait son droit, enfin à Paris, où il était allé l'achever. Par quel miracle d'ordre, de vigilance y arrivait-elle? Tous l'ignoraient comme elle-même. Mais chaque fois que Jean songeait à Castelet, qu'il levait les yeux vers la photographie à reflets pâles, effacés de lumière, la première figure évoquée, le premier nom prononcé, c'était d'Yvonne, la paysanne au grand cœur, qu'il sentait cachée derrière la gentilhommière et la tenant debout par l'effort de sa volonté. Depuis quelques jours, cependant, depuis qu'il savait ce qu'était sa maîtresse, il évitait de prononcer ce nom vénéré devant elle, comme celui de sa mère ni aucun des siens. Même la photographie le gênait à regarder, déplacée, égarée à cette muraille au-dessus du lit de Sapho. Un jour, en rentrant dîner, il fut surpris de voir trois couverts au lieu de deux, plus encore de trouver Fanny en train de jouer aux cartes avec un petit homme qu'il ne reconnut pas d'abord, mais qui, en se retournant, lui montra les yeux clairs de chèvre folle, le grand nez conquérant dans une face hâlée et poupine, le crâne chauve et la barbe de rigueur de l'ongle lézère. Au cri de son neveu, il répondit sans lâcher les cartes, « Tu vois, je ne m'ennuie pas, je fais un bésigue avec ma nièce. » Sa nièce. Les gens qui cachaient si soigneusement sa liaison à tout le monde, cette familiarité lui déplut, et les choses que Césaire lui débitait à voix basse, pendant que Fanny s'occupait du dîner. Bon compliment, petit, des yeux, des bras, un morceau de roi. Ce fut bien pis quand à table le fainéant se mit à parler sans aucune réserve des affaires de Castelet, de ce qui l'amenait à Paris. Le prétexte du voyage, c'était de l'argent à toucher, 8 000 francs, qu'il avait prêtés autrefois à son ami Courbebès, et qu'il ne comptait jamais revoir. Quand une lettre du notaire lui avait appris et la mort de Courbebès, péchère, et le remboursement tout près de ses 8 000 francs. Mais le vrai motif, car on aurait pu lui faire parvenir l'argent. Ah, le vrai motif, c'est la santé de ta mère, mon pauvre. Depuis quelque temps, elle s'affaiblit beaucoup, et des fois qu'il y a sa tête de ménage, elle oublie tout, jusqu'au nom des petites. L'autre soir, ton père sortait de sa chambre, elle a demandé à Divonne qui était ce bon monsieur qui venait la voir si souvent. Personne ne s'est encore aperçu de cela que ta tante, et elle m'en a parlé que pour me décider à venir consulter Bouchereau sur l'état de la pauvre femme qui l'a soignée autrefois. Avez-vous eu déjà des fous dans votre famille? Demanda Fanny, l'air doctoral et grave, son air lagournerie. Jamais, dit le fainéant, ajoutant avec un sourire malin, froncé jusqu'aux tempes, qu'il avait été un peu toqué dans sa jeunesse, mais ma folie ne déplaisait pas aux dames, et l'on n'a pas eu besoin de m'enfermer. Jean les regardait navrés. Au chagrin que lui causait la triste nouvelle, se joignait un oppressant malaise d'entendre cette femme parler de sa mère, de ses infirmités d'âge critique, avec le libre langage et l'expérience d'une matrone à l'écoute sur la table en roulant une cigarette. Et l'autre bavard, indiscret, s'abandonnait, disait les secrets intimes de la famille. Ah, les vignes, fichues les vignes! et le clos lui-même n'en avait plus pour longtemps. La moitié des cépages était déjà dévorée, et l'on ne conservait le reste que par miracle, en soignant chaque grappe, chaque grain, comme des enfants malades avec des drogues qui coûtaient cher. Et le terrible, c'est que le consul s'entêtait à planter toujours de nouveaux ceps que le ver attaquait, au lieu de laisser à la culture des oliviers, des capriers, toute cette bonne terre inutile couverte de pampres lépreux et roussis. Heureusement qu'il avait, lui, ses airs, quelques hectares au bord du Rhône, qu'il soignait par l'immersion, une découverte superbe, applicable seulement dans les terrains bas. Déjà, une bonne récolte l'encourageait, d'un petit vin pas très chaud, du vin de grenouille, disait le consul dédaigneusement. Mais le Fénat s'entêtait aussi, et avec les 8 000 francs de Courbebesse, il allait acheter la piboulette. Tu sais, petit, la première île sur le Rhône n'en a pas le désabrieux, mais ceci entre nous, il faut que personne à Castelet ne se doute de rien encore. Pas même d'Yvonne, mon oncle, demanda Fanny en souriant. Ah, au nom de sa femme, les yeux du Fénat se mouillèrent. Oh, d'Yvonne, je ne fais jamais rien sans elle. Elle a foi dans mon idée, d'ailleurs. Elle serait si heureuse que son pauvre Césaire refit la fortune de Castelet, après avoir commencé la ruine. Oh, Jean frémit. Allait-il donc faire sa confession, raconter cette lamentable histoire des faux? Non, le Provençal, tout à sa tendresse pour d'Yvonne, s'était mis à parler d'elle, du bonheur qu'elle lui donnait. Et si belle avec ça, si magnifiquement charpentée. Tenez, ma nièce, vous qui êtes femme, vous devez vous y connaître. Et il lui tendait un portrait carte tiré de son portefeuille et qui ne le quittait jamais. À l'accent filial de Jean quand il parlait de sa tante, au conseil maternel de la paysanne écrit d'une grande écriture un peu tremblée, Fanny se figurait une de ces villageoises à marmotte de Seine-et-Oise et resta saisie devant ce joli visage aux lignes pures, éclairci par l'étroite coiffe blanche, cette taille élégante et souple d'une femme de 35 ans. Très belle, en effet, dit-elle en pinçant les lèvres d'une intonation singulière. « Et une charpente !» fit l'oncle, qui tenait à son image. Puis on passa sur le balcon. Après une journée chaude dont le zinc de la véranda brûlait encore, il tombait d'un nuage perdu une fine pluie d'arrosage qui rafraîchissait l'air, teintait gaiement sur les toits et éclaboussait les trottoirs. Paris riait sous cette ondée, et le train de la foule, des voitures, toute cette rumeur montante grisait le provincial, remuait dans sa tête vide et mobile comme un grelot des rappels de jeunesse et d'un séjour de 3 mois qu'il avait fait quelque 30 ans auparavant chez son ami Courbebesse. Quelle noce, mes enfants, quelle bordée! Et leur entrée au Prado, une nuit de mi-carême, Courbebesse en chicard et sa maîtresse, la Mornasse en marchande de chaussons. Un déguisement qui leur avait porté chance puisqu'elle était devenue une célébrité de café-concert. Lui-même, l'oncle, remorquait un petit chiffon du quartier que l'on appelait Pellicule. Et, tout ragaillardi, il riait de la bouche jusqu'aux tempes, fredonnait des airs à danser, saisissait en mesure sa nièce par la taille. À minuit, quand il les quitta pour gagner l'hôtel Cujas, le seul qu'il connut dans Paris, il chantait à pleine gorge dans l'escalier, envoyait des baisers à sa nièce qui l'éclairait et criait à Jean « Tu sais, prends garde à toi !» Dès qu'il fut parti, Fanny, dont le front gardait un pli préoccupé, passa vivement dans son cabinet de toilette et par la porte restée entrouverte pendant que Jean se couchait, elle commençait d'une voix presque insouciante. Dis donc, elle est très jolie, ta tante. Ça m'étonne plus si tu en parlais si souvent. Vous avez dû lui en faire porter à ce pauvre fainéant, une tête à ça du reste. Il protestait de toute son indignation. Divonne, une seconde mère pour lui, qui tout petit le soignait, l'habillait. Elle l'avait sauvé d'une maladie, de la mort. Oh non, jamais la tentation ne lui serait venue d'une infamie pareille. Va donc, reprenait la voix stridente de la femme, des épingles à coiffer entre les dents. Tu me feras pas croire qu'avec ces yeux-là et la belle charpente dont parlait cet imbécile, sa divonne ait pu rester sans désir à côté d'un joli blond à peau de fille comme toi. Vois, tu me débordes du Rhône, où d'ailleurs nous sommes toutes les mêmes. Et elle le disait avec conviction, croyant son sexe entier, facile à tout caprice, et vaincu du premier désir. Lui se défendait, mais troublé, interrogeant ses souvenirs, se demandant si jamais le frôlement d'une innocente caresse avait pu l'avertir d'un danger quelconque, et quoique ne trouvant rien, la candeur de son affection restait atteinte, le pur camé rayé d'un coup d'ongle. Tiens, regarde la coiffe de ton pays. Et sur ses beaux cheveux, massés en de longs bandeaux, elle avait épinglé un fichu blanc qui imitait assez bien la catalane, le béguin à trois pièces des filles de Châteauneuf, et droite devant lui, dans les plis laiteux de sa batiste de nuit, les yeux brûlants, elle lui demandait « Est-ce que je ressemble à Divonne ?»« Oh non, pas du tout. Elle ne ressemblait qu'à elle-même sous ce petit bonnet, rappelant l'autre, celui de Saint-Lazare qui la rendait si jolie, disait-on, pendant qu'elle envoyait à son forçat un baiser d'adieu en plein tribunal. « T'ennuie pas, mamie, les beaux jours reviendront. » Et ce souvenir lui fit tant de mal que, sitôt sa maîtresse couchée, il éteignit bien vite pour ne plus la voir. Le lendemain de bonne heure, l'oncle arrivait en casseur, la haute canne haute, criant « Ohé, les bébés !» avec l'intonation fringante et protégeante qu'avait pour Bebesse autrefois quand il venait le chercher dans les bras de pellicule. Il paraissait encore plus excité que la veille. L'hôtel Cujas, sans doute, et surtout les 8 000 francs pliés dans son portefeuille. L'argent de la piboulette, ben oui. Mais il avait bien le droit d'en distraire quelques louis pour offrir un déjeuner à la campagne à sa nièce. Et Bouchereau, observa le neveu, qui ne pouvait manquer son ministère 2 jours de suite. Bon, il fut convenu qu'on déjeunerait aux Champs-Élysées et que les deux hommes iraient après à la consultation. Ce n'était pas ce que le fainéant avait rêvé, l'arrivée à Saint-Cloud en grande remise, du champagne plein la voiture. Mais le repas fut charmant tout de même, sur la terrasse du restaurant, ombragé d'acacia et de vernis du Japon, que traversaient les flonflons d'une répétition de jour au voisin café-concert. Césaire, très bavard, très galant, mit toutes ses grâces à l'air pour éblouir la Parisienne. Il attrapait les garçons, complimentait le chef de sa sauce meunière, et Fanny riait d'un élan bête et forcé, d'une niaiserie de cabinet particulier qui fit de la peine à Gossin, ainsi que l'intimité s'établissant entre l'oncle et la nièce par-dessus sa tête. On eût dit des amis de 20 ans. Le fainéant, devenu sentimental avec les vins de dessert, parlait de Castelet, de Divonne et aussi de son petit Jean. Il était heureux de le savoir avec elle, une femme sérieuse qui l'empêcherait de faire des bêtises. Et sur le caractère un peu ombrageux du jeune homme, la façon de le prendre, il lui donnait des conseils, comme à une jeune mariée en lui tapotant les bras, la langue épaisse, l'œil éteint et mouillé. Il se dégrisa chez Bouchereau. 2 heures d'attente au premier étage de la place Vendôme, dans ces grands salons hauts et froids, encombrés d'une foule silencieuse et angoissée. L'enfer de la douleur dont ils traversèrent successivement tous les cercles, passant de pièce en pièce jusqu'au cabinet de l'illustre savant. Bouchereau, avec sa mémoire prodigieuse, se souvint très bien de Madame Gaussin, étant venue en consultation à Castelet 10 ans auparavant, au commencement de la maladie. Il s'en fit raconter les différentes phases, relut les ordonnances anciennes et tout de suite rassura les deux hommes sur les accidents cérébraux qui venaient de se produire et qu'il attribuait à l'emploi de certains médicaments. Pendant qu'immobile, ses gros sourcils baissés sur ses petits yeux aigus et fouilleurs, il écrivait une longue lettre à son confrère d'Avignon, l'oncle et le neveu écoutaient, retenant leur souffle, le grincement de cette plume qui couvrait pour eux à elle seule toute la rumeur du Paris luxueux. Et subitement leur apparaissait la puissance du médecin dans les temps modernes, dernier prêtre, croyance suprême, invincible superstition. Césaire sortit de là, sérieux et refroidi. Je rentre à l'hôtel bouclé ma malle, l'air de Paris est mauvais pour moi, vois-tu petit. Si j'y restais, je ferais des bêtises. Je prendrai ce soir le train de 7 heures. Excuse-moi près de ma nièce. Hé ! Jean se garda bien de le retenir, effrayé de son enfantillage et de sa légèreté. Et le lendemain, en s'éveillant, il se félicitait de le savoir rentrer, sous clé, près de Divonne. Quand on le vit apparaître, la figure à l'envers, le linge en désordre. Mais bon Dieu, mon oncle, que vous arrive-t-il ? Effondré dans un fauteuil, sans voix et sans gestes d'abord, mais s'animant à mesure, l'oncle avoua une rencontre du temps de Courbevoie, le dernier dîner trop copieux, et les 8 000 francs perdus la nuit dans un tripot. Plus un sou, rien. Comment rentrer là-bas, raconter ça à Divonne, et l'achat de la piboulette. Tout à coup, pris d'une sorte de délire, il se mettait les mains sur les yeux, les pouces bouchant les oreilles, et hurlant, sanglotant, déchaîné, le méridional s'invectivait, étalait son remords dans une confession générale de toute sa vie. Il était la honte et le malheur des siens. Oh, des types tels que lui dans les familles, on aurait le droit de les abattre comme des loups. Sans la générosité de son frère, où serait-il ? Au bagne avec les voleurs et les faussaires. Mon oncle, disait Gaussin, très malheureux, essayant de l'arrêter. Mais l'autre, volontairement aveugle et sourd, se délectait à ce témoignage public de son crime, raconté dans les moindres détails, tandis que Fanny le regardait avec une pitié mêlée d'admiration. Un passionné, au moins, celui-là, un brûle-tout comme elle les aimait. Et remuée dans ses entrailles de bonne fille, elle cherchait un moyen de lui venir en aide. Mais lequel ? Elle ne voyait plus personne depuis 1 an. Jean n'avait aucune relation. Subitement, un nom lui vint à l'esprit. Deschelettes. Il devait être à Paris en ce moment. Et c'était un si bon garçon. Mais je le connais à peine, dit Jean. Oh, j'irai, moi. Comment tu veux ? Pourquoi pas ? Le regard se croisèrent et se comprirent. Deschelettes aussi avait été son amant, l'amant d'une nuit qu'elle se rappelait à peine. Mais lui n'en oubliait pas un. Ils étaient tous en rang dans sa tête comme les saints d'un calendrier. « Oh, si cela t'ennuie, » fit-elle un peu gênée. Alors Césaire, qui, pendant ce court débat, s'était interrompu de crier, très anxieux, tourna vers eux un tel regard de supplication désespérée que Jean se résigna, consenti entre les dents. Qu'elle leur parut longue, cette heure, à tous deux, déchirés par des pensées qu'ils ne s'avouaient pas, appuyés au balcon, guettant la rentrée de la femme. « C'est donc bien loin, ce d'Échelette ?»« Mon nom, rue de Rome, à deux pas, » répondait Jean furieux, et trouvant, lui aussi, que Fanny était bien longue à revenir. Il essayait de se tranquilliser avec la devise amoureuse de l'ingénieur, « pas de lendemain », et la façon méprisante dont il avait entendu parler de Sappho comme d'une ancienne de la vie galante. Mais sa fierté d'amant se révoltait, et il aurait presque souhaité que Deschelettes la trouvât encore belle et désirable. Ah, ce vieux toquet de Césaire avait bien besoin de rouvrir ainsi toutes les plaies. Enfin, le mantelet de Fanny tourna l'angle de la rue. Elle rentrait rayonnante. « C'est fait, j'ai l'argent. » Les 8 000 francs étalés devant lui, l'oncle pleurait de joie, voulait faire un reçu, fixer les intérêts, la date du remboursement. « Inutile, mon oncle, je n'ai pas prononcé votre nom. C'est à moi qu'on a prêté cet argent. C'est à moi que vous le devez aussi longtemps qu'il vous plaira. » Oh, des services pareils, mon enfant, répondait Césaire, transporté de reconnaissance. On les paye avec de l'amitié qui ne finit plus. Et dans la gare où Gossin l'accompagnait pour être assuré 7 fois de son départ, il répétait les larmes aux yeux. Quelle femme, quel trésor! Il faut la rendre heureuse, vois-tu. Jean resta très fâché de cette aventure, sentant sa chaîne déjà si lourde se river de plus en plus et se confondre de choses que la délicatesse native avait toujours tenues séparées et distinctes, la famille et sa liaison. À présent, Césaire mettait la maîtresse au courant de ses travaux, de ses plantations, lui donnait des nouvelles de tout Castelet, et Fanny critiquait l'obstination du consul dans l'affaire des vignes, parlait de la santé de la mère, irritait Jean d'une sollicitude ou de conseils déplacés. Jamais d'allusion au service rendu, par exemple, ni à l'ancienne aventure du Fénard, à cette tare de la maison d'Armandie que l'oncle avait livrée devant elle. Une seule fois, elle s'en faisait une arme de riposte dans les circonstances que voici. Il rentrait du théâtre et montait en voiture, sous la pluie, à une station du boulevard. L'équipage, une de ces guimbardes qui ne roulent qu'après minuit, fut long à démarrer. L'homme endormi, la bête secouant sa musette. Pendant qu'ils attendaient à couvert dans le fiacre, un vieux cocher, en train de rajuster une mèche à son fouet, s'approcha tranquillement de la portière, son filet entre les dents, et dit à Fanny d'une voix cassée qui puait le vin, « Bonsoir, comment que ça va? Tiens, c'est vous ?» Elle eut un petit tressaut vite réprimé et tout bas à son amant, « Mon père !» Son père, ce maraudeur à la longue lévite d'ancienne livrée, souillé de boue, aux boutons de métal arrachés, et montrant sous le gaz du trottoir une face bouffie, apoplectisée d'alcool, où Gossin croyait retrouver en vulgaire le profil régulier et sensuel de Fanny, ses larges yeux de jouisseuse. Sans se préoccuper de l'homme qui accompagnait sa fille, et comme s'il ne l'eût pas vu, le père Legrand donnait des nouvelles de la maison. La vieille est un équerre depuis 15 jours et file un mauvais coton. Va donc la voir, elle, ce jeudi, ça y donnera du courage. Moi, ouais, bon, le coffre est solide. Toujours bon fouet, bonne mèche, bon, le commerce va pas fort. Si t'avais besoin d'un bon cocher au moins, ça ferait joliment mon affaire. Non, bah, tant pis alors. Et à la revoyure. Ils se serrèrent les mains mollement, le fiacre partit. Hein, crois-tu ? Murmurait Fanny. Et tout de suite, elle se mit à lui parler longuement de sa famille, ce qu'elle avait toujours évité. C'était si laid, si bas, mais on se connaissait mieux maintenant, on n'avait plus rien à se cacher. Elle était née au Moulin aux Anglais, dans la banlieue, de ce père ancien dragon qui faisait le service des voitures de Paris à Châtillon et d'une servante d'auberge entre deux tournées de comptoir. Elle n'avait pas connu sa mère, morte en couche. Seulement les patrons du relais, braves gens, obligèrent le père à reconnaître sa petite et à payer les mois de nourrice. Il n'osa pas refuser, car il devait gros dans la maison, et quand Fanny eut 4 ans, il l'emmenait sur sa voiture, comme un petit chien niché en haut, sous la bâche, amusé de rouler ainsi par les chemins, de voir la lumière des lanternes courir des deux côtés, fumer et haleter le dos des bêtes, et de s'endormir au noir à la bise en entendant sonner les grelots. Mais le père Legrand se fatigua vite de cette pause à la paternité. Si peu que ça coûtait, il fallait la nourrir, l'habiller, cette morveuse. Puis elle le gênait pour un mariage avec la veuve d'un maraîcher dont il guignait les cloches à melons, les choux en carré alignés sur son itinéraire. Elle eut alors la sensation très nette que son père voulait la perdre. C'était son idée fixe d'ivrogne, se débarrasser de l'enfant à toute force. Et si la veuve elle-même, la brave mère Machaume, n'avait pris la fillette sous sa protection... « Ah, au fait, tu l'as connue, Machaume ?» dit Fanny. « Comment, cette servante que j'ai vue chez toi ?» C'était ma belle-mère. Elle avait été si bonne pour moi quand j'étais petite. Je la prenais pour l'arracher à son gueux de mari, qui, après lui avoir mangé tout son bien, la rouait de coups, l'obligeait à servir une coupe avec laquelle il vivait. Ah, la pauvre Machaume ! Elle sait ce que coûte un bel homme. Eh bien, quand elle m'a eu quitté, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, elle est courue se remettre avec lui, et maintenant la voilà à l'hospice. Comme il se laisse aller sans elle, le vieux gredin. Oh, était-il sale, quelle mine de rouleur. Il n'y a que son fouet, as-tu vu comme il le tenait droit? Même sous à tomber, il le porte devant lui comme un cierge, le serre dans sa chambre. Il n'avait jamais eu que ça de propre. Bon fouet, bonne mèche, c'est son mot. Elle en parlait inconsciemment, ainsi que d'un étranger, sans dégoût ni honte. Et Jean s'épouvantait à l'entendre. Ce père, cette mère, en face de la figure sévère du consul et de l'angélique sourire de Madame Gossin, et comprenant tout à coup ce qu'il y avait dans le silence de son amant, quelle révolte contre ce gâchis social dont il s'éclaboussait auprès d'elle. « Après tout, » dit Fanny sur un ton philosophe, « c'est un peu ça dans toutes les familles, on n'en est pas responsable. Moi, j'ai mon père le grand, toi. Tu as ton oncle Césaire. » Chapitre 6. Mon cher enfant, je t'écris encore toute tremblante du gros tourment que vous nous venons d'avoir. Nos belles sœurs disparues, parties de Castelet pendant tout un jour, une nuit à la matinée du lendemain. C'est dimanche, à l'heure du déjeuner, qu'on s'est aperçu que les petites manquaient. Je les avais faites belles pour la messe de 8 heures, où le consul devait les conduire, puis je m'en étais plus occupé, retenu auprès de la mère, plus nerveuse que d'habitude, comme sentant le malheur qui rôdait autour de nous. Tu sais qu'elle a toujours eu ça depuis sa maladie, de prévoir ce qui doit arriver, et moins elle peut bouger, plus sa tête travaille. Ta mère dans sa chambre, heureusement, tu nous vois tous à la salle, attendant les petites. On les appelle par le clos, le berger souffle avec sa grosse coquille ramener les brebis, puis Césaire d'un côté, moi d'un autre, Rousseline, Tardive, nous voilà tous à galoper dans Castelet, et chaque fois en nous rencontrant, eh bien, rien vu. À la fin, on n'osait plus demander, le cœur battant, on allait au puits, au bas des hautes fenêtres du grenier. Quelle journée! Et il me fallait monter à tout moment près de ta mère, sourire d'un air tranquille, expliquer l'absence des petites en disant que je les avais envoyées passer le dimanche chez leur tante de Villamuris. Elle avait paru le croire, mais tard dans la soirée, pendant que je la veillais, guettant derrière la vitre les lumières qui couraient dans la plaine et sur le Rhône, à la recherche des enfants, je l'entendis qui pleurait doucement dans son lit. Et comme je l'interrogeais, « Je pleure pour quelque chose que l'on me cache, mais que j'ai deviné tout de même, » me répondit-elle de cette voix de petite fille, qui lui est revenue à fort de souffrance, et sans plus nous parler, nous nous inquiétions toutes deux, à part dans notre chagrin. Enfin, mon cher enfant, pour ne pas faire durer cette pénible histoire, le lundi matin, nos petites nous furent ramenées par les ouvriers que ton oncle occupe dans l'île et qui les avait trouvées sur un tas de sarments, pâles de froid et de faim après cette nuit en plein air, au milieu de l'eau. Et voici ce qu'elles nous ont conté dans l'innocent de leur petit cœur. Depuis longtemps, l'idée les tourmentait de faire comme leurs patronnes Marthe et Marie, dont elles avaient lu l'histoire, de s'en aller dans un bateau, sans voile ni rame ni provision d'aucune sorte, répandre l'évangile sur le premier rivage où les pousserait le souffle de Dieu. Dimanche, donc, après la messe, détachant une barque à la pêcherie et s'agenouillant au fond comme les saintes femmes, tandis que le courant les emportait, elles s'en sont allées doucement, échouées dans les roseaux de la Piboulette, malgré les grandes eaux de la saison, les coups de vent et les révoulins. Oui, le bon Dieu les gardait, et c'est lui qui nous les a rendues, les jolies, ayant un peu fripé leur guimpe du dimanche et gâté la dorure de leurs paroissiens. On n'a pas eu la force de les gronder, seulement de grands baisers à bras ouverts. Mais nous sommes tous restés malades de la peur que nous avons eue. La plus frappée, c'est ta mère, qui, sans que nous lui ayons encore rien raconté, a senti, comme elle dit, passer la mort sur Castelet, et garde, elle, si tranquille, si gaie d'ordinaire, une tristesse que rien ne peut guérir, malgré que ton père et moi, tout le monde, nous serrions tendrement autour d'elle. Et si je te disais, mon Jean, que c'est de toi surtout qu'elle languit et s'inquiète, elle n'ose pas l'avouer devant le père qui veut qu'on te laisse à ton travail, mais tu n'es pas venu après ton examen comme tu l'avais promis. Fais-nous la surprise pour les fêtes de Noël, que notre malade reprenne son bon sourire. Si tu savais, quand on ne les a plus, ces vieux, comme on regrette de ne pas leur avoir donné plus de temps. Debout près de la fenêtre où filtrait un jour paresseux d'hiver sous le brouillard, Jean lisait cette lettre, en savourait le bouquet sauvage, les chers souvenirs de tendresse et de soleil. « Qu'est-ce que c'est ? Fais voir !» Fanny venait de s'éveiller à la jaune lueur du rideau écarté et, toute bouffie de sommeil, allongeait machinalement la main vers le paquet de Maryland à demeure sur la table de nuit. Il hésita, sachant la jalousie qu'espérait en sa maîtresse le nom seul de Divonne, mais comment dissimuler le billet dont elle reconnaissait la provenance et le format ? D'abord l'escapade des fillettes, les mue gentiment, tandis que les bras et la gorge à l'air, dressés sur l'oreiller dans le flot de ses cheveux bruns, elle lisait tout en roulant une cigarette. Mais la faim l'irrita jusqu'à la fureur, et chiffonnant et jetant la lettre par la chambre, « Mais t'en collerais, moi, les saintes femmes, tout ça des inventions pour te faire partir. Son beau neveu lui manque à cette... » Il voulut l'arrêter, empêcher le mot ordurier qu'elle lança et bien d'autres à la file. Jamais elle ne s'était encore emportée aussi grossièrement devant lui, dans ce débordement de colère fangeuse, d'égout crevé, lâchant sa vase et sa puanteur. Tout l'argot de son passé de fille et de voyou gonflait son cou, détendait sa lèvre. Pas malin de voir ce qu'ils voulaient tous là-bas. César avait parlé, et l'on combinait ça en famille, de rompre leur liaison, de la tirer au pays avec la belle charpente de la divane pour amorce. D'abord, tu sais, si tu pars, moi je lui écris à ton cocu, hein. Je l'avertis, ah, mais... En parlant, elle se ramassait haineusement sur le lit, blême la face creuse, les traits grandis comme une bête méchante prête à bondir. Et Gossin se rappelait l'avoir vu ainsi rue de l'Arcade. Mais c'était contre lui maintenant, cette haine rugie qui lui donnait la tentation de tomber sur sa maîtresse et de la battre, car en ses amours de chair, où l'estime et le respect de l'être aimé sont néant, la brutalité surgit toujours dans la colère ou les caresses. Il eut peur de lui-même, s'échappa pour son bureau, et tout en marchant, il s'indignait contre cette vie qu'il s'était faite. Ça lui apprendrait à se livrer à une pareille femme, mais que d'infamie, que d'horreur. Ses sœurs, sa mère, y en avait eu pour tout le monde. De quoi, pas même le droit d'aller voir les siens? Mais dans quel bagne s'était-il donc enfermé? Et toute l'histoire de leur liaison lui apparaissant, il voyait comment les beaux bras nus de l'Égyptienne, noués à son cou le soir du bal, s'étaient cramponnés, despotes et forts, l'isolant de ses amis et de sa famille. Maintenant sa résolution était prise. Le soir même, et coûte que coûte, il partirait pour Castellet. Quelques affaires expédiées, son congé obtenu au ministère, il revint chez lui de bonne heure, s'attendant à une scène terrible prête à tout, même à la rupture. Mais le bonjour bien doux que Fanny lui dit tout de suite, ses yeux gros, ses joues comme amollies de larmes, lui laissèrent à peine le courage d'une volonté. « Je pars ce soir, » fit-il en se raidissant. « T'as raison, mamie, va voir ta mère, et surtout, » elle se rapprochait câlinement, « oublie comme j'ai été méchante. Je t'aime trop, c'est ma folie. » Tout le restant du jour, faisant la malle avec de coquettes sollicitudes, ramené à la douceur des premiers temps, elle garda cette attitude repentie, peut-être dans l'espoir de le retenir. Pourtant, pas une fois, elle ne lui demanda « Reste !» Et lorsque, à la dernière minute, tout espoir perdu devant les apprêts définitifs, elle se frôlait et se serrait contre son amant, tâchant de l'imprégner d'elle pour toute la durée de la route et de l'absence, son adieu, son baiser ne murmurèrent que ceci. « Dis Jean, tu ne m'en veux pas ?» Oh, l'ivresse au matin de s'éveiller dans sa petite chambre d'enfant, le cœur encore chaud des étreintes familiales, des belles effusions de l'arrivée, de retrouver à la même place, sur le moustiquaire de son lit étroit, la même barre lumineuse, qui cherchaient ses réveils passés, d'entendre les cris des paons sur leur perchoir, grincer la poulie du puits, le culbutement à pattes pressées du troupeau, et lorsqu'il lui fait claquer ses volets à la muraille, de revoir cette belle lumière chaude qui entrait par nappes en tombée d'écluses, et ce merveilleux horizon de vignes en pente, de cyprès, d'oliviers, de miroites en bois de pin, se perdant jusqu'au Rhône sous un ciel profond et pur, sans un duvet de brume malgré l'heure matinale, un ciel vert balayé toute la nuit par le mistral qui remplissait encore l'immense vallée de son souffle allègre et fort. Jean comparait ce réveil à ceux de là-bas, sous un ciel boueux comme son amour, et se sentait heureux et libre. Il descendit. La maison blanche de soleil dormait encore, tous ses volets fermés comme des yeux, et il fut heureux d'un moment de solitude pour se reprendre dans cette convalescence morale qu'il sentait commencer pour lui. Il fit quelques pas sur la terrasse, prit une allée montante du parc, ce qu'on appelait le parc, un bois de pins et de myrtes jetés au hasard dans la côte rude de Castellet, coupé de sentiers inégaux tout glissant d'aiguilles sèches. Son chien miracle, bien vieux et boitant, était sorti de sa niche et le suivait silencieusement dans ses talons. Ils avaient si souvent fait ensemble cette promenade du matin. À l'entrée des vignes, dont les grands cyprès de clôture inclinaient leurs cimes pointues, le chien hésita. Il savait combien le sol, en épaisse couche de sable, un nouveau remède au phylloxéra que le consul était en train d'essayer, serait difficile à ses vieilles pattes, ainsi que les gradins d'été de la terrasse. La joie de suivre son maître le décida pourtant, et c'était à chaque obstacle de douloureux efforts, des petits cris peureux, des arrêts et des maladresses de crabe sur un rocher. Jean ne le regardait pas, tout occupé de ce nouveau plan d'Alicante dont son père l'avait longuement entretenu la veille. Les souches paraissaient une belle venue sur le sable uni et luisant. Enfin, le pauvre homme allait être payé de ses peines entêtées. Le clos de Castellet pourrait revivre quand la Nerthe, l'Ermitage, tous les grands crus du Midi étaient morts. Une petite coiffe blanche se dressa tout à coup devant lui. C'était Divonne, la première levée à la maison. Elle avait une serpette dans la main, autre chose aussi qu'elle jeta, et ses joues si mates d'ordinaire s'allumaient d'une rougeur vive. « Oh, c'est toi, Jean. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était ton père. » Puis se remettant, elle l'embrassa. « As-tu bien dormi ?»« Très bien, tante, mais pourquoi craignez-vous l'arrivée de mon père ?»« Pourquoi ?» Elle ramassa le pied de vigne qu'elle venait d'arracher. « Le consul t'a dit, n'est-ce pas, que cette fois il était sûr de réussir ?»« Eh bien, t'es, voilà la bête !» Jean regardait une petite mousse jaunâtre incrustée dans le bois, l'imperceptible moisissure qui, de proche en proche, a ruiné des provinces entières. Et c'était une ironie de la nature, dans cette splendide matinée, sous le soleil vivifiant, que cet infiniment petit destructeur et indestructible. Ben c'est le commencement, dans 3 mois. Tout le clos sera dévoré et ton père recommencera encore. Quel y a mis son orgueil? Ce seront de nouveaux plans, de nouveaux remèdes jusqu'au jour. Un geste désolé acheva et souligna sa phrase. Vraiment, nous en sommes là? « Oh, tu connais le consul, il dit jamais rien, me donne le moi comme toujours, mais je le vois préoccupé. Il court à Avignon, à Orange, et c'est de l'argent qu'il cherche. Et ses airs, ses immersions ?» demanda le jeune homme consterné. Oh, « grâce à Dieu, par là, tout allait bien. Ils avaient eu 50 pièces de petit vin, la dernière récolte, et 7 ans apportaient le double. Devant ce succès, le consul avait cédé à son frère toutes les vignes de la plaine restées jusqu'ici en jachère, en alignement de bois mort comme un cimetière de campagne. Et maintenant, elles étaient sous l'eau pour 3 mois. Et fier de l'œuvre de son homme, de son fainéant, la Provençale montrait à Jean, du lieu élevé où il se trouvait, de grands étangs, des clairs, maintenus par des bourrelets de chaux comme sur les salines. Oh, dans 2 ans, ce cépage donnera. Dans 2 ans aussi, la Piboulette et encore l'île de la Motte que ton oncle a achetée sans le dire. Alors nous serons riches, mais il faut tenir jusque-là, et que chacun y mette du sien et se sacrifie. Elle en parlait gaiement du sacrifice en femme qui ne tonne plus, et avec un si facile entraînement que Jean, traversé d'une idée subite, lui répondit sur le même ton. « On se sacrifiera, » dit Yvonne. Le jour même, il écrivit à Fanny que ses parents ne pouvaient lui continuer sa pension, qu'il serait réduit aux appointements ministériels et que dans ces conditions, la vie à deux devenait impossible. C'était rompre, plutôt qu'il n'avait pensé, 3 ou 4 ans avant le départ prévu. Mais il comptait que sa maîtresse accepterait ses raisons graves, qu'elle aurait pitié de lui et de sa peine, l'aiderait dans cet accomplissement douloureux d'un devoir. Était-ce bien un sacrifice? Ne fut-il pas au contraire soulagé d'en finir avec une existence qui lui semblait odieuse et malsaine, depuis surtout qu'il s'était rendu à la nature, à la famille, aux affections simples et droites? Sa lettre écrite sans lutte ni souffrance, il compta, pour le défendre contre une réponse qu'il prévoyait furieuse, pleine de menaces et d'extravagance, sur la tendresse honnête et fidèle des braves cœurs qui l'entouraient, l'exemple de ce père droit et fier entre tous, sur le sourire candide des petites saintes femmes, et aussi sur ses grands horizons paisibles, aux saines émanations de montagnes, ce ciel en hauteur, ce fleuve rapide et entraînant. Car en songeant à sa passion, à toutes les vilenies dont elle était faite, il lui semblait sortir d'une fièvre pernicieuse, comme on en gagne à la buée des terrains marécageux. 5 ou 6 jours se passèrent dans le silence du grand coup porté. Matin et soir, Jean allait à la poste, et revenait les mains vides, singulièrement troublées. Que faisait-elle? Qu'avait-elle décidé? En tout cas, pourquoi ne pas répondre? Il ne pensait qu'à cela. Et la nuit, tout le monde dormant à Castelet avec le bruit berceur du vent par les longs corridors, ils en causaient, Césaire et lui, dans sa petite chambre. « Elle est dans le cas d'arriver, » disait l'oncle. Et son inquiétude se doublait de ceci, qu'il avait dû mettre sous l'enveloppe de la rupture 2 billets à 6 mois et à 1 an, réglant sa dette avec les intérêts. Mais comment les paierait-il, ces billets? Mais comment expliquer à Divonne? Il frissonnait rien que d'y penser, et faisait peine à son neveu quand, le nez allongé et secouant sa pipe, la veillée finie, lui disait tristement. Alors, bonsoir, de toute manière, c'est très bien ce que tu as fait là. Enfin, elle arriva à cette réponse, et dès les premières lignes, mon homme chéri, je ne t'ai pas écrit plus tôt parce que je tenais à te prouver autrement que par des paroles à quel point je te comprends et je t'aime. Jean s'arrêta, surpris comme un homme qui entend une symphonie à la place de la chamade qu'il redoutait. Il tourna vite la dernière page où il lut « Rester jusqu'à la mort ton chien qui t'aime, que tu peux battre et qui te caresse passionnément. » Elle n'avait donc pas reçu sa lettre. Non, mais reprise, ligne à ligne et les larmes aux yeux, celle-ci était bien une réponse, disait bien que Fanny s'attendait depuis longtemps à cette mauvaise nouvelle, à la détresse de Castelet amenant l'inévitable séparation. Et tout de suite, elle s'était mise en quête d'une occupation pour ne plus rester à sa charge, et elle avait trouvé la gérance d'un hôtel meublé, avenue du Bois de Boulogne, au compte d'une dame très riche. 100 francs par mois, nourrie, logée et la liberté des dimanches. Tu entends, mon homme, tout un jour par semaine pour nous aimer, car tu voudras bien encore, dis. Tu me récompenseras du grand effort que je fais de travailler pour la première fois de ma vie, de cet esclavage de nuit et de jour que j'accepte, avec des humiliations que tu ne peux te figurer, qui seront bien lourdes à ma folie d'indépendance. Mais j'éprouve un contentement extraordinaire à souffrir par amour de toi. Je te dois tant. Tu m'as fait comprendre tant de bonnes et honnêtes choses dont personne ne m'avait jamais parlé. Oh, si nous nous étions rencontrés plus tôt. Mais tu ne marchais pas encore, que déjà je roulais dans les bras des hommes. Pas un de ceux-là toujours ne pourra se vanter de m'avoir inspiré une résolution pareille pour le garder encore un petit peu. Maintenant, reviens quand tu voudras, l'appartement est libre. J'ai ramassé toutes mes affaires. C'était là le plus dur, secouer les tiroirs et les souvenirs. Tu ne trouveras que mon portrait qui ne te coûtera rien, lui. Seulement les bons regards que je m'en dis en sa faveur. Ah, mamie, mamie, enfin, si tu me gardes mon dimanche et ma petite place dans ton cou, ma place, tu sais. Et des tendresses, des câlineries, une voluptueuse lécherie de mère chatte, de ces mots de passion qui faisaient l'amant frôler son visage au papier satiné comme si la caresse s'en dégageait humaine et tienne. « Elle ne parle pas de mes billets ?» demanda timidement l'oncle Césaire. « Elle vous les renvoie. Vous la rembourserez quand vous serez riche. » L'oncle eut un soupir soulagé, les tempes froncées de contentement, et avec une gravité prud'homesque, sa forte intonation méridionale, « T'es, veux-tu que je te dise, cette femme-là, c'est une sainte ?» Puis passant à un autre ordre d'idées, par cette mobilité, ce manque de logique et de mémoire, une des cocasseries de sa nature. « Et quelle passion, mon bon, quel feu! J'en ai la bouche sèche, comme quand Courbebesse me lisait la correspondance de la Mornas. » Une fois encore, j'en dus subir le premier voyage à Paris, l'hôtel Cujas, pellicule. Mais il n'entendait pas, accoudé à la fenêtre ouverte sur la nuit apaisée, baigné d'une lune pleine, tellement brillante que les coqs s'y trompaient et la saluaient comme le jour levant. Ainsi donc, c'était vrai, cette rédemption par l'amour dont parlent les poètes. Et il éprouvait une sorte de fierté à songer que tous ces grands, ces illustres que Fanny avait aimés avant lui, loin de la régénérer, la dépravaient davantage, tandis que lui, par la seule force de son honnêteté, la tirerait peut-être du vice pour toujours. Il lui était reconnaissant d'avoir trouvé ce moyen terme, cette demi-rupture où elle prendrait les nouvelles habitudes de travail, si difficiles à sa nature indolente. Et sur un ton paternel de vieux monsieur, il lui écrivit le lendemain pour encourager sa réforme, s'inquiéter du genre d'hôtel qu'elle gérait, du monde qui venait là, car il se méfiait de son indulgence et de sa facilité à dire se résignant « Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça !» Courrier par courrier, avec une docilité de petite fille, Fanny lui fit le tableau de son hôtel, vraie maison de famille habitée par des étrangers, au premier des Péruviens, père et mère, enfants et domestiques nombreux, au second des Russes et un riche Hollandais, marchand de corail. Les chambres du troisième logeaient deux écuyers de l'hippodrome, chic anglais, très comme il faut, Et le plus intéressant petit ménage, mademoiselle Mina Vogel, sitariste de Stuttgart, avec son frère Léo, un pauvre petit poitrinaire obligé d'interrompre ses études de clarinette au conservatoire de Paris et que la grande sœur était venue soigner sans autre ressource que le produit de quelques concerts pour payer l'hôtel et la pension. Tout ce qu'on peut imaginer de plus touchant et de plus honorable, comme tu vois, mon homme chéri. Moi-même, je passe pour veuve et l'on me montre toutes sortes d'égards. Je ne souffrirai pas d'abord qu'il en fût autrement. Il faut que la femme soit respectée. Quand je dis ta femme, comprends-moi bien. Je sais que tu t'en iras un jour, que je te perdrai. Mais après, il n'y en aura plus d'autres. À jamais je resterai tienne, conservant le goût de tes caresses et les bons instincts que tu as réveillés en moi. C'est bien drôle, n'est-ce pas, sa faux vertueuse? Oui, vertueuse quand tu ne seras plus là. Mais pour toi, je me garde telle que tu m'as aimée, délirante et brûlante. Je t'adore. Subitement, Jean fut pris d'une grande tristesse ennuyée. Ces retours de l'enfant prodigue après les joies de l'arrivée, l'orgie de vos gras et des fusions tendres, souffrent toujours des hantises de la vie nomade, du regret des glands amers et du paresseux troupeau à conduire. C'est un désenchantement qui tombe des choses et des êtres, tout à coup dépouillés et décolorés. Les matins de l'hiver provençal n'avaient plus pour lui leur salubre allégresse, ni d'attrait la chasse aux belles loutres mordorées le long des berges, ni le tir aux macreuses dans le naïf chien du vieil Abrieux. Jean trouvait le vent dur, l'eau rêche et bien monotone les promenades dans les vignes, inondées avec l'oncle expliquant son système de vannes martelières et rigoles d'amener. Le village, qu'il revoyait les premiers jours à travers ses courses joyeuses de gamins, baraques anciennes, quelques-unes abandonnées, sentait la mort et la désolation d'un village italien. Et quand il allait à la poste, il lui fallait subir, sur la pierre branlante de chaque porte, le rabâchage de tous ces vieux, tordus comme des pleins vents, les bras passés dans des morceaux de bras tricotés, et de ces vieilles au manteau de buis jaune sous leur coiffe serrée, aux petits yeux luisants et frétillants comme il embryonnait les arbres des vieux murs. Toujours les mêmes lamentations sur la mort des vignes, la faim de la garance, la maladie des mûriers, les sept plaies d'Égypte ruinant ce beau pays de Provence. Et pour les éviter, quelquefois, il revenait par les ruelles en pente qui longent les anciens murs d'enceinte du château des Papes, ruelles désertes encombrées de broussailles, de ces grandes herbes de Saint-Roch pour guérir les dartres, bien à leur place dans ce coin Moyen-Âge, ombré de l'énorme ruine déchiquetée en haut du chemin. Alors il rencontrait le curé Malassagne, venant de dire sa messe et descendant à grands pas furieux, le rabat de travers, sa soutane relevée à deux mains à cause des ronces et des teignes. Le prêtre s'arrêtait, tonnait contre l'impiété des paysans, l'infamie du conseil municipal. Il jetait sa malédiction sur les champs, les bêtes et les hommes, des malandrins qui ne venaient plus à l'office, qui enterraient leurs morts sans sacrement, se soignaient par le magnétisme, le spiritisme, pour s'épargner le prêtre et le médecin. Oui, monsieur, le spiritisme, voilà où ils en arrivent, nos paysans du comtat, et vous ne voulez pas que les vignes soient malades ? Jean, qui avait la lettre de Fanny toute ouverte et embrasée dans sa poche, écoutait le regard absent, échappait le plus vite possible à l'homélie du prêtre, et rentrait à Castellet, s'abritait dans un creux de roche, ce que les Provençaux appellent un cagnard, garanti du vent qui souffle tout autour et concentrant le soleil réverbéré dans la pierre. Il choisissait le plus perdu, le plus sauvage, envahi par les ronces et les chênes kermès, s'y terrait pour lire sa lettre, et peu à peu, de la fine odeur qu'elle exhalait, de la caresse des mots, des images évoquées, lui venait une griserie sensuelle qui activait son pouls, l'hallucinait jusqu'à faire disparaître, comme un décor inutile, le fleuve, les îles en bouquet, les villages au creux des alpilles, toute la courbe de l'immense vallée où la bourrasque chassait, roulait en flots la poudre du soleil. Il était là-bas, dans leur chambre, devant la gare aux toits gris, en proie aux caresses folles, à ces désirs furieux qui les cramponnaient l'un à l'autre avec des crispations de noyer. Tout à coup, des pas dans le sentier, des rires clairs. « Il est là !» Ses sœurs apparaissaient, petites jambes nues dans la lavande, conduites par le vieux miracle, tout fier d'avoir dépisté son maître, et remuant la queue victorieusement. Mais Jean leur envoyait un coup de pied et rebutait les offres de jouer à cache-cache ou à courir qu'on lui faisait d'un air timide. Il les aimait pourtant, ces petites bessonnes, raffolant du grand frère toujours si loin. Il s'était fait enfant pour elles dès l'arrivée, s'amusait du contraste de ces jolies créatures nées en même temps et dissemblables. L'une longue, brune, les cheveux crêpelés, à la fois mystique et volontaire, c'est elle qui avait eu l'idée de la barque, exaltée par les lectures du curé Malassagne. Et cette petite Marie, l'égyptienne, avait entraîné la blonde Marthe un peu molle et douce, ressemblant à sa mère et à son frère. Mais quelle gêne odieuse, pendant qu'il était à remuer ses souvenirs, que ces innocentes câlineries d'enfant se frottant au parfum coquet que mettait sur lui la lettre de sa maîtresse. « Non, 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 laissez-moi, il faut que je travaille. » Et il rentrait avec l'intention de s'enfermer chez lui, quand la voix de son père l'appelait au passage. « C'est toi, Jean, écoute donc !» L'heure du courrier apportait de nouveaux sujets de morosité à cet homme déjà sombre de nature, gardant de l'Orient des habitudes de solennité silencieuse, coupé de brusques souvenirs. Quand j'étais consul à Hong Kong, qui partait en éclats de souche au grand feu. Pendant qu'il écoutait son père lire et discuter ses journaux du matin, Jean regardait sur la cheminée la Sapho de Caudal, les bras aux genoux, sa lyre à côté d'elle, toute la lyre, un bronze acheté il y avait 20 ans, lors des embellissements de Castelet. Et ce bronze du commerce, qui l'écœurait aux vitrines parisiennes, lui donnait ici, dans son isolement, une émotion amoureuse, l'envie de baiser ses épaules, de délier ses bras froids et polis, et de se faire dire « Sapho pour toi, mais rien que pour toi !» L'image tentatrice se levait quand il sortait, marchait avec lui, doublait le bruit de son pas dans le grand escalier pompeux. C'était le nom de Sapho que rythmait le balancier de la vieille horloge, que chuchotait le vent par les grands corridors dallés et froids de la demeure estivale, son nom qu'il retrouvait dans tous les livres de cette bibliothèque de campagne, vieux bouquins à tranches rouges, conservant entre la brochure des miettes de ses goûters d'enfant. Et cet obsédant souvenir de sa maîtresse le poursuivait jusque dans la chambre maternelle, où d'Yvonne coiffait la malade, relevait ses beaux cheveux blancs sur ce visage resté paisible et rose, malgré des tortures variées et perpétuelles. « Ah, voilà notre Jean !» disait la mère. Mais avec son cou nu, sa petite coiffe, ses manches retroussées pour cette toilette dont elle seule avait la charge, sa tante lui rappelait d'autres réveils, évoquait la maîtresse encore, sautant du lit dans le nuage de sa première cigarette. Il s'en voulait d'idées pareilles dans cette chambre surtout. Mais que faire cependant pour y échapper? Notre enfant n'est plus la même, ma sœur, disait Madame Gossin tristement. Mais qu'est-ce qu'il a? Et elles cherchaient ensemble. Diva ne torturait son entendement ingénu. Elle aurait voulu questionner le jeune homme, mais il semblait la fuir maintenant, éviter d'être seul avec elle. Une fois l'ayant guetté, elle vint le surprendre au cagnard, dans la fièvre de ses lettres, de ses mauvais rêves. Il se levait, l'œil sombre. Elle le retint, s'assit près de lui sur la pierre chaude. « Tu ne m'aimes donc plus? Je ne suis donc plus ta divonne à qui tu disais toutes tes peines? » « mais si, bégayait-il, troublé par sa façon tendre, et détournant les yeux pour qu'elle ne pût y retrouver quelque chose de ce qu'il venait de lire, appel d'amour, crier perdu, le délire de la passion à distance. « Mais qu'as-tu? Pourquoi es-tu triste ?» murmurait Yvonne avec des câlineries de voix et de mains comme on en a pour les enfants. C'était un peu son petit, il restait pour elle à 10 ans, l'âge des petits hommes qu'on émancipe. Et lui, déjà brûlant de sa lecture, s'exaltait au charme troublant de ce beau corps si près du sien, de cette bouche fraîche au sang avivé par le grand air, qui dérangeait les cheveux, les envolait au-dessus du front en délicats frisons à la mode parisienne. Et les leçons de Sappho, « Mais toutes les femmes sont les mêmes en face de l'homme, elles n'ont qu'une idée en tête », lui faisait trouver provoquant le sourire de la paysanne, son geste pour le retenir au tendre interrogatoire. Tout à coup, il sentit monter le vertige d'une tentation mauvaise, et l'effort qu'il faisait pour y résister le secoua d'un frisson convulsif. Divonne s'effrayait de le voir si pâle, les dents claquantes. « Oh, le pauvre, il a la fièvre !» D'un geste de tendresse irréfléchi, elle dénouait le grand fichu qui entourait sa taille pour le lui mettre au cou. Mais brusquement saisie, enveloppée, elle sentit la brûlure d'une caresse folle sur sa nuque, ses épaules, toute la chair étincelante qui venait de jaillir au soleil. Elle n'eut le temps de crier ni de se défendre, peut-être même pas le sentiment juste de ce qui venait de se passer. « Oh, je suis fou, je suis fou !» Et il se sauvait, déjà loin dans la garrigue dont les pierres roulaient sinistrement sous ses pieds. À déjeuner, ce jour-là, Jean annonça qu'il partirait le soir même, rappelé par un ordre du ministre. « Partir déjà? Tu avais dit, mais tu ne fais que d'arriver !» Et des cris, des supplications. Mais il ne pouvait plus rester avec eux, puisqu'entre toutes ces tendresses intervenait l'influence agitante et corruptrice de Sappho. D'ailleurs, ne leur avait-il pas fait le plus grand sacrifice en renonçant à la vie à deux? La rupture complète s'achèverait un peu plus tard, et il reviendrait alors aimé sans honte ni gêne, embrasser tous ces braves gens. Il était nuit, la maison couchée éteinte, quand Césaire revint de conduire son neveu au train d'Avignon. L'avoine donnait au cheval, après avoir scruté le ciel, ce regard au présage du temps des hommes qui vivent de la terre. Il allait rentrer quand il vit une forme blanche sur un banc de la terrasse. « C'est toi, Divonne ?»« Oui, je t'attendais. » Très occupé tout le jour, séparé de son fénat qu'elle adorait, ils avaient le soir de ces rendez-vous pour causer, faire un tour de promenade ensemble. Était-ce la courte scène entre les gens, comprise en y pensant et plus qu'elle n'eût voulu, ou l'émotion d'avoir vu pleurer la pauvre mère tout le jour silencieusement. Elle avait la voix altérée, une inquiétude d'esprit extraordinaire chez cette calme personne de devoir. Sais-tu quelque chose? Pourquoi nous a-t-il quittés si vivement? Elle ne croyait pas à cette histoire de ministère, soupçonnant plutôt quelque attache mauvaise qui tirait l'enfant loin de sa famille. Tant de dangers de si fatales rencontres dans ce Paris de perdition. Césaire, qui ne savait rien lui cacher, avoua qu'il avait en effet une femme dans la vie de Jean, mais une bonne créature incapable de le détourner des siens. Et il parla de son dévouement, des lettres touchantes qu'elle écrivait, vanta surtout la résolution courageuse qu'elle avait prise de travailler, ce qui sembla tout naturel à la paysanne. Car enfin, il faut travailler pour vivre. Oh, pas ce genre de femme-là, dit Césaire. C'est donc une rien du tout avec qui Jean vivait, et tu es allé là-dedans. Oh, je te jure, dit Yvonne, que depuis qu'elle le connaît, il n'y a pas de femme plus chaste, plus honnête. L'amour l'a réhabilité. Mais c'était des mots trop longs, dit Yvonne ne comprenait pas. Pour elle, cette dame entrait dans ce rebut qu'elle appelait les mauvaises femmes, et la pensée que son Jean était la proie d'une créature pareille l'indignait. Oh, si le consul se doutait de cela! Césaire essayait de la calmer, assuré par tous les plis de sa bonne face un peu grivoise, qu'à l'âge du garçon, on pouvait se passer de femme. « Mais t'es pardi qu'il se marie !» dit-elle avec une conviction attendrissante. « Enfin, ils ne sont déjà plus ensemble, c'est toujours ça. » Et alors, d'un ton grave, « Écoute, Césaire, tu sais comme on dit chez nous, le malheur dure toujours plus que celui qui l'amène. Si c'est vraiment comme tu racontes, si Jean a tiré cette femme de la boue, il s'est peut-être bien sali à cette triste besogne. Possible qu'il l'ait rendue meilleure et plus honnête, mais qui sait si le mauvais qui était en elle n'a pas gâté notre enfant jusqu'au cœur. » Il revenait vers la terrasse. Nuit paisible et limpide sur toute la vallée silencieuse, où rien ne vivait que la lumière glissante de la lune, le fleuve houleux, les clairs en flaques d'argent. On respirait le calme, l'éloignement de tout, le grand repos d'un sommeil sans rêve. Soudain, le train montant déroula au bord du Rhône, sa rumeur sourde à toute vapeur. « Oh, ce Paris !» dit Yvonne, montrant le poing vers l'ennemi que la province charge de toutes ses colères. « Ce Paris, ce qu'on lui donne et ce qu'il nous envoie !»